Bonjour à tous. Je suis très très content d'être venu à la réunion de prière mercredi, c'est toujours le cas, mais là encore plus, parce que quand André m'a annoncé au mois d'août qu'il sera absent aujourd'hui et qu'il m'a demandé de préparer un message, je savais à peu près ce que je voulais dire, mais j'aime bien toujours avoir un texte qui me sert de fil conducteur. Et puis bah, en fait, ceux qui étaient là à la réunion de prière mercredi reconnaîtront, puisqu'en fait c'est eux qui me l'ont donné. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais partager avec vous le chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens. Alors mercredi on l'avait partagé dans la version second, moi je vais vous le lire dans la version Summer, qui je trouve enlève beaucoup des difficultés de compréhension qu'on peut avoir. Enfin mes frères, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant. Et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. C'est Paul qui parle, je vous le rappelle. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit jusqu'à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui. Je le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner le Christ. Mon désir, c'est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection, avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir quoi qu'il arrive à la résurrection d'entre les morts. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, moi je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant tout ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel, dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous, qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque, vous pensez autrement, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Suivez tous mon exemple, frère, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il en est beaucoup qui croient, qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé. Je vous le dis une fois de plus, en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre, et ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, car il transformera notre cœur misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Il y a énormément, énormément de choses dans les épîtres de Paul. Il y a énormément de choses dans ce chapitre. Et aujourd'hui, c'est pas une étude biblique que je veux vous faire. Je veux juste aborder certaines choses. Mais pourquoi j'ai pris la peine de lire tout le chapitre? Parce que très souvent, on prend un verset et en fait, on l'applique à quelque chose qui nous parle. Mais c'est pas toujours ça que le contexte nous dit. En fonction de votre version, vous avez le verset 13 ou 14. Vous savez. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. De quoi parle Paul? C'est quoi le prix après lequel il court? Est-ce que quelqu'un a une proposition? Gilles? Oui. Et concrètement, pour quelqu'un qui n'a pas fait des études bibliques? La perfection en Christ, d'accord. Est-ce que d'autres personnes ont d'autres compréhensions? La vie éternelle? Connaître Dieu. Bravo Josué. Alors, si vous reprenez en fait les versets qui sont avant, vous avez Paul qui vous parle de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, d'être trouvé en lui. Ainsi, je connaîtrai Christ. Je serai dans la communion avec ses souffrances, en devenant conforme à lui. C'est fou, non? En quelques lignes, vous avez 5 références au fait d'avoir une relation avec Christ. Donc je crois qu'en fait, ce qui est vraiment... Toutes les choses que vous avez dites sont vraies. Évidemment, Jean-Gilles, la vocation en Jésus-Christ. Mais justement, ça donne une autre compréhension à la vocation céleste. Mais en fait, tout le salut aussi, c'est pas entièrement faux. Et très souvent, on pense au salut. Moi, pendant des années, ce verset-là, chaque fois qu'on me le disait, je pensais au salut. Je disais, faut courir pour avoir le salut, faut courir pour avoir le salut, je suis inquiet, faut que je cours jusqu'au bout. Mais en fait, c'est des choses qui sont incluses dans la relation qu'on a avec Jésus-Christ. Et le but que Paul vise, c'est pas ce que Dieu nous donne, c'est la relation avec Dieu. Et c'est ça dont je voulais vous parler. C'est pour ça que j'étais vraiment très content quand les hommes ont évoqué ça à la réunion de prière. Très souvent, le Saint-Esprit nous aide à travers nos frères et nos sœurs. Dieu veut une relation avec nous. Et ça, en fait, pour moi, c'est vraiment le message de la Bible. Si on doit résumer la Bible, c'est Dieu veut une relation avec nous. Vous prenez le fil chronologique, ça commence comment? Dieu crée la terre, il crée le jardin d'Éden, il met l'homme et la femme dedans, Adam et Ève. Et lui, il est où? Il est en Éden et il leur parle face à face. Après, il y a le péché. À cause du péché, Adam et Ève peuvent plus rester en présence de Dieu, qui est saint. Ils sont séparés de lui. Mais génération après génération, Dieu va chercher des hommes qui veulent avoir cette relation avec lui. Et quand il en trouve, comme Noé, comme Abraham, il fait quoi? Il conclut une alliance avec eux. Et il leur dit, ok, toi tu as cette relation avec moi, je te bénis. Maintenant, apprends à tes enfants à avoir cette relation avec moi. Et s'ils gardent cette alliance, s'ils gardent notre contrat, notre accord, je les bénirai de la même manière que je te bénis, toi. Et ceux qui ont vraiment enseigné ça à leurs enfants, c'est devenu un peuple qui était béni et protégé par Dieu. Le problème du péché se pose toujours depuis Éden. Et comme l'homme n'a pas les moyens de régler le prix du péché pour rétablir cette relation, c'est Dieu qui a pourvu. Donc je vais pas vous refaire toute la théologie sur le sacrifice de Christ, mais juste vous rappeler ça. Parce que nous, on n'avait pas la possibilité de rétablir cette relation. Dieu a demandé à Jésus de payer sur la croix, d'être un sacrifice de justice. Parce que Dieu, il est saint, il veut cette relation avec nous, mais il peut pas se permettre d'être injuste. Il peut pas dire, non, c'est pas grave, je te connais, on s'arrange. Même si vous connaissez un juge, si vous faites un délit, vous êtes attrapé par la police, c'est connu de tout le monde, il y a une injustice, il faut que quelqu'un paye, il faut qu'il y ait une amende, il faut qu'il y ait une peine de prison, quelque chose. Mais par contre, le juge, si c'est votre ami, en tant que juge, il sera obligé de vous condamner. Par contre, si c'est votre ami, si c'est que vous n'avez pas de quoi régler la peine d'amende, il pourra peut-être dire, attends, là je suis plus juge, là je suis celui qui t'aime, tiens, la peine, c'est moi qui la paye pour toi. C'est exactement ça que Dieu a fait. Et la Bible se termine avec l'Apocalypse, la révélation de ce qui est sur le point de venir. Et il nous parle de la Jérusalem céleste, des nouveaux cieux, une nouvelle terre, et il va y avoir une cité. Et cette Jérusalem céleste, je vais pas vous en faire le détail, mais simplement, elle a des particularités. Je lis en Apocalypse 21, verset 3. « J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Il insiste. On sera ensemble. Au début, il nous a créés pour être ensemble, et à la fin, il rétablit cette proximité. Et un peu plus loin, au verset 22-23, « Je ne vis point de temple dans la ville, la Jérusalem céleste, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » On est tellement proche de Dieu, on n'a plus besoin de temple, puisqu'on est directement dans sa présence. On n'a même plus besoin de lumière, mais directement à son contact. Et c'est lui la lumière. Je voudrais prendre quand même un passage, indépendamment de ce fil chronologique, il y a quelque chose qui nous montre bien le fait que Dieu veut cette relation avec nous, et en plus, il nous donne le mode d'emploi, c'est le tabernacle. Le tabernacle, c'était le petit temple portatif. C'était la tente Keshua que les Hébreux transportaient sur leur dos quand ils se déplaçaient dans le désert, et qui montait une fois qu'ils se mettaient en place à un endroit. C'est le sanctuaire mobile, en fait, qui permet à Dieu d'habiter au milieu de son peuple, et qui procure aux hommes pécheurs un moyen de communion constante avec le Dieu saint. Et en fait, bon, c'est pareil, je veux pas faire une étude sur le tabernacle, il y a des personnes qui ont déjà fait ça très très bien, je crois qu'Annie Stéphane nous avait fait une étude de ça. Mais simplement, quand vous regardez l'organisation, il y a le parvis, en fait. Il y a le temple, et c'est une tente, et tout autour, vous avez des parvis qui sont délimités par une toile, une barrière de lin. En fait, on peut pas s'approcher du Dieu saint sans passer par un cheminement. Il y a cette distance à respecter quand on n'est pas passé par ce cheminement. Il y a une porte, une seule porte. Or, je crois que dans la Bible, c'est marqué que Jésus-Christ est la porte. C'est le seul moyen d'accès, vous n'en avez pas d'autre. Quand vous rentrez, il y a l'autel des holocaustes. Et il fallait faire un sacrifice pour acquitter la justice. On ne pouvait pas rentrer en étant en situation d'injustice. Mais aujourd'hui, nous, cet autel des sacrifices, c'est Jésus qui est dessus. Après, il y a la cuve des reins. Ah oui, c'est pas parce que Jésus a payé le sacrifice qu'il faut pas se purifier. J'utilisais se purifier plutôt que se sanctifier. C'est-à-dire, c'est pas parce que Jésus a fait toute la démarche pour vous que vous avez plus rien à faire pour pouvoir vous approcher de Dieu. Si vous changez pas votre manière d'être, vos mauvaises habitudes, vous allez retomber aussitôt dans le péché. Il faut vous purifier. Et après, seulement, vous pouvez accéder à la tente. Alors, la tente, vous avez le lieu saint, qui était la partie où on pouvait rentrer, et le lieu très saint, à l'intérieur duquel il y avait la présence de Dieu. Dans le lieu saint, vous aviez l'autel des propositions, le chandelier d'or, la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Vous aviez l'autel des parfums, l'intercession. Et oui, quand vous priez, vous rentrez dans le lieu saint. Quand vous priez, quand vous intercédez, vous êtes en présence de Dieu. Vous êtes dans cette relation. Et vous avez le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Le voile qui a été déchiré quand Jésus est monté sur la croix. Jésus est la porte, il est déjà dans le lieu saint, et il est évidemment dans le lieu très saint, puisqu'à l'intérieur du lieu très saint, en fait, vous avez l'arche d'alliance, et l'arche d'alliance qui contenait la loi Dieu. Mais au-dessus de la loi, il y a ce qu'on appelait un couvercle, qu'on appelait le propitiatoire, qui était en or, et qui était aspergé du sang du sacrifice, une fois par an. Le sacrifice, dans la conception de Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ, il est au-dessus des commandements qu'il nous a donnés. Vous avez également le pain de vie, la manne, un vase de manne. Vous aviez le bâton d'Aaron qui avait refleuri. Un bâton coupé, il est mort. Il a refleuri, donc il a regagné la vie. Vous avez plein de symboles. Jésus-Christ, il est partout. Il est tout au long de ce chemin de relation qui permet de revenir vers Dieu et d'aller dans sa présence. Donc, vous voyez, dès les temps très anciens, des milliers d'années avant que Jésus-Christ ne vienne, Dieu nous avait déjà indiqué à l'avance, il nous avait déjà donné des tas d'indices de comment revenir en relation avec lui et de comment les choses allaient être facilitées. Alors Dieu, il veut cette relation avec nous. Il a tout fait, de tout temps, pour qu'on puisse avoir cette relation. Le seul problème, nous donner le moyen du salut, ça suffit pas. Comme je vous disais, il faut se purifier. Il y a cette cuve dans laquelle il fallait se baigner. Parce que si on retombe tout le temps dans les mêmes impasses, on se remet hors de portée du salut. Si on n'est pas assez mature pour une relation avec Dieu, même si on vient dans sa présence, on va rien retirer. Et lui non plus d'ailleurs. Si vous parlez avec un enfant de 6 mois, 1 an, qui a pas encore de mots, quelle relation vous allez avoir avec lui ? Vous allez pouvoir vous faire des câlins, vous allez pouvoir échanger de l'amour. Mais en termes de communion, c'est un peu creux. Vous pouvez pas encore discuter avec lui des choses que vous avez à cœur, des choses que vous voyez pour lui, pour son futur. Et lui, il peut pas vous dire ce qu'il ressent. Si vous discutez avec un mec bourré, c'est pareil. Hein. Il est beaucoup plus vieux, mais il est pas beaucoup plus mature.
J'ai un pote.
Ça dure pas longtemps. Donc en fait, Dieu, il a besoin de nous faire évoluer. Il a besoin de nous éduquer. Ça, c'est le deuxième point. Il veut cette relation avec nous, mais pour avoir cette relation, il a besoin de nous transformer. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous avez souvent entendu. Voilà, ça enlève rien à ce que Jésus-Christ a fait, il a enlevé nos péchés, mais pour autant, on est tellement loin de l'intelligence de Dieu, du cœur de Dieu, il a besoin de nous éduquer. Je vais juste vous redonner quelques exemples à travers la Bible, des gens que nous, on regarde comme étant des patriarches, comme étant des modèles. Abraham, lorsqu'il a menti, chaque fois qu'il craignait d'avoir des problèmes parce que il n'avait pas la puissance face à un grand roi, etc., il disait à sa femme, bon, écoute, t'es super belle, si jamais le roi il a envie et il trouve que t'es à son goût, le meilleur moyen pour lui de t'avoir, c'est de me tuer. Donc ce serait sympa, tu dis que t'es ma sœur. Deux fois ça se produit. Les deux fois ça se produit comme ça. À chaque fois on lui dit, bon bah écoute, ta sœur elle est bien belle, ça va devenir la concubine du roi, tiens voilà des cadeaux. Vous parlez d'un modèle. Eh ben Dieu à chaque fois va rétablir la situation. Il va rendre chaque fois le royaume qui lui a volé sa femme malade. Il va intervenir en sa faveur. Mais à chaque fois, si vous relisez, vous vous apercevrez qu'Abraham va se faire reprendre par les païens à qui il a menti. C'est lui qui est censé être un exemple. C'est lui qui a cette relation avec Dieu. Et ben Dieu va conduire les rois à lui dire « Mais qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Comment as-tu osé attirer un péché pareil parmi nous? Un si grand malheur? Ça va pas !» Il se fait faire la morale. Le grand Abraham, le patriarche, le père des croyants. Jacob, celui qui a été appelé Israël, l'ancêtre du peuple de Dieu. Son nom veut dire le trompeur. En fait, Dieu va lui faire une promesse. Il va lui dire, tu vois là, tu vas être à la tête de mon peuple. C'est de toi que je vais faire une nation. Mais en fait, Jacob, il va vouloir y arriver par lui-même. Il va tromper sa famille, il va tromper son frère. Pour avoir le droit d'aînesse, contre un plat de lentilles. Il va tromper son père en se faisant passer pour son frère. Pour recueillir la prière. Et ben Dieu va le reprendre. Il va lui dire, toi mon petit bonhomme, puisque tu crois que c'est en trompant tout le monde que tu vas obtenir ce que tu veux, je vais te montrer ce que ça fait. Et il l'envoie en stage chez son oncle, et pendant 14 ans, il va bosser pour rien, pour avoir le droit d'épouser la femme qu'il aime. Mais là, étonnamment, il va arrêter d'essayer de tromper son monde, il va comprendre la leçon, il va l'endurer, et il va changer. Et là, en fait, il va être prêt à rentrer dans le ministère que Dieu a pour sa vie. Jonas, le prophète rebelle. Tiens Jonas, tu vas aller là, tu vas aller prévenir ces gens-là qu'un grand malheur va arriver sur eux s'ils continuent comme ça. Ça va pas, non? C'est des païens. C'est pas mon peuple. En plus, ils sont tellement forts militairement. Si jamais ils se repentent, qu'il n'y a pas un grand malheur qui arrive sur eux, ils risquent de nous écraser un jour. Et Jonas, il part dans la direction opposée que celle que Dieu lui a dit. Mais en fait, encore une fois, Dieu, il va intervenir. Il va rétablir la situation. Mais Dieu, il va pas l'affronter, en fait. Il va pas tonner, il va pas faire survenir des grands malheurs. Simplement, à chaque fois, il va diriger le cours des choses, une tempête, un poisson, pour remettre systématiquement Jonas exactement sur le chemin qu'il voulait éviter. Jusqu'à ce que ce soit Jonas qui cède. Dieu sait que c'est un rebelle. Il va pas l'affronter cash. Parce qu'il sait très bien qu'avec le caractère qu'il a, Jonas, il est capable de sortir du salut, de sortir de son appel. Il va simplement se contenter de le fatiguer. Vas-y, cours, cours. T'es bien fatigué? Hop, je te prends, je te remets là. Moi, je fais pareil avec mes enfants quand ils courent dans tous les sens. Je les attrape, tiens, reviens au point de départ. Puis quand ils en ont marre, ils vont dans la direction que je veux. Le roi David, la référence. Il est persuadé d'être juste. Si vous lisez quand vous lisez les psaumes, combien de fois il dit « Ah Seigneur, regarde comme il se comporte mal, viens à mon secours, moi qui te suis fidèle, moi qui suis tes commandements, moi qui te crains, moi qui t'aime. Regarde, il se moque de moi. Quand il se moque de moi, il se moque de toi. » David, c'est clair, hein, il est dans le camp de Dieu. Il y a des psaumes où il reconnaît qu'il a du péché en lui. Mais quand vous lisez la plupart des choses qu'il a écrites, Seigneur, viens à mon secours, moi qui suis juste, moi qui n'ai pas péché contre toi. Souviens-toi de moi, souviens-toi de tout ce que j'ai fait de bien. Ouais. Eh ben, David, quand il va pécher, Dieu, il va être un peu tordu avec lui. Parce que David est tellement persuadé d'être un mec bien, qu'il va pas lui dire, David, tu as péché. Il va envoyer le prophète Nathan, qui va lui dire, voilà ce qui s'est passé. Il y a un homme riche qui a plein de choses. Et son voisin, il a juste une petite brebis. Eh ben l'homme riche, il a piqué la brebis pour faire un festin avec. David, il dit, c'est pas bien, il mérite la mort. Et Nathan lui dit, ah bon, il mérite la mort? Mais toi, t'as fait quoi? T'as combien de femmes? T'as combien de concubines ? Et t'as été piqué Bathsheba, à Uri le Hittite, la seule femme qu'il avait. Tout son bien. Tu mérites la mort ? Et là, David, il s'est jugé lui-même. Lui qui se croyait juste, c'est lui-même qui s'est jugé, qui a reconnu qu'il avait commis un péché. Et là, tout de suite, il va changer d'attitude. Pierre, l'apôtre qui a toujours la pêche, le meneur, le leader, celui qui est toujours sûr de lui. Pierre qui est orgueilleux. En fait, Jésus va le conduire à perdre toute illusion sur sa propre valeur au moment où il va renier Jésus. Jusqu'à la mort, je t'accompagne. T'as rien à craindre, je ne crains rien, j'irai avec toi jusqu'au bout. Jésus lui annonce qu'il va le renier 3 fois. Et Pierre va le renier 3 fois. Et là, Pierre, il va être brisé. Mais après ça, Jésus, quand il va être ressuscité, il va revenir et il va le rétablir, il va lui confirmer son ministère. Non, c'est pas parce que t'as été orgueilleux, c'est pas parce que tu croyais que t'étais fort que t'es plus appelé à être un pasteur. Au contraire, maintenant que tu sais que tu peux pas compter sur moi, tu vas enfin compter sur moi. Merci. J'ai eu un doute. Donc Dieu a besoin de nous éduquer. Mais le problème, c'est pas que nous et Dieu. C'est pas que nous et Dieu. Il y a l'ennemi. Il y a Satan. On n'aime pas trop en parler. Et puis, faut pas fixer ses yeux sur lui. Mais faut juste faire attention à pas lui laisser la place dans nos vies. Tout à l'heure, je vous parlais de Zoé. Je vais vous en reparler parce que, en fait, si la relation qu'on a avec Dieu, elle repose sur l'adoration. Alors dit comme ça, on s'imagine toujours, ah mais attends, pourquoi faut que moi je suis toujours sur mes genoux à dire, ah Dieu, t'es génial, t'es grande. Et si vous relisez les psaumes, c'était pas comme ça que David concevait cette relation avec Dieu. Quand il y avait quelque chose qui allait pas dans sa vie, il n'hésitait pas à crier. Mais il regardait, par contre, toujours à son père, et ça c'est vrai. Et en fait, quand Zoé attend qu'on lui donne à manger, on lui prépare des bonnes choses. Ça prend un petit peu de temps des fois, plus qu'elle l'aimerait, mais on lui donne quelque chose qui est bon pour elle et qui l'aide à grandir. Et elle est contente au bout. Mais il y a des coups, elle regarde pas à nous. Elle a envie de trouver par elle-même. Et là, elle mange n'importe quoi. Elle mange ce qu'elle trouve dans les tiroirs, elle prend des miettes par terre, elle mange les croquettes de la chienne, et récemment, elle a escaladé un meuble, elle a chopé une boîte de médicaments, et elle l'a mangé. Quand on regarde pas à Dieu, on fait n'importe quoi. On va manger des choses qui sont mauvaises pour nous. C'est pour ça que cette relation, elle est basée sur le regard qu'on porte à Dieu. Parce que lui nous donne des bonnes choses. Il nous aide à grandir. Et c'est pour ça que Paul dit, ils ont pour Dieu leur ventre. À la fin. C'est en ça que c'est dangereux. Quand on écoute son ventre, on regarde plus Dieu et on avale n'importe quoi. Et alors là, il y en a un qui se régale. Parce que cette adoration, il y en a un autre qui la veut. Dieu, il l'a vu, il la veut dans notre relation parce qu'elle est bonne pour nous. Il la veut pour nous protéger. Mais Satan, il la veut pour lui. Parce qu'il veut être adoré. Il veut être Dieu. Il veut se mettre à la place de Dieu. C'est le is no good céleste, si vous voulez. Et Satan, il a des tas de techniques. Pour vous faire une petite synthèse rapide. Encore une fois, le but, c'est pas de parler de Satan ou de porter toute notre attention sur lui. Le but, c'est juste de faire attention, nous, à verrouiller tous les accès à Satan. Son arme principale, c'est le péché. Il a commencé avec ça, avec Adam et Ève. À Jéricho, les Hébreux ont remporté une grande bataille parce qu'ils ont suivi les commandements de Dieu. À Haï, la bataille suivante, il y en avait un dans toute l'armée qui avait commis un péché. Ils se sont pris une dérouillée parce qu'ils étaient plus protégés par Dieu. En fait, c'est un droit légal. C'est comme votre assurance. Vous avez pas mis le troisième verrou qui était stipulé dans votre contrat. Votre assurance, elle peut plus vous protéger. Et le voleur, lui, se régale. Le péché, l'intimidation. L'intimidation, c'est quoi? L'intimidation, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'arrive même pas, et qui vous pète en deux. Vous prenez Élie, le grand prophète Élie. À un moment donné, il remporte une victoire contre tous les prophètes de Baal et d'Astarté, contre le roi Achab. Et là, Jézabel, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle envoie ses soldats pour essayer de le trucider parce qu'il la gêne? Elle envoie un messager. Et elle lui dit, tout ce que tu as fait à mes prophètes, je vais te le faire. Vous avez Dieu qui a fait des miracles, vous avez tous les prophètes qui ont été trucidés. Si Jézabel avait essayé de provoquer un combat, elle l'aurait perdu, c'est certain. Mais là, en fait, d'un seul coup, Élie, il va commencer à réfléchir à ça et ça va tourner sans cesse. Mince, qu'est-ce qu'elle va me faire? Quel jour elle va me le faire? Comment elle va me le faire? Et il va arrêter de regarder à Dieu. Et il voit plus que ce danger qui grossit, sa vie d'un seul coup, c'est plus que échapper à Jézabel. Et là, il sent plus la force. Il est brisé en deux. Et quand vous regardez dans l'histoire, les nazis, l'inquisition, chaque fois qu'on essaye de briser quelqu'un, avant même que la torture intervienne, il y a une chose qui marche bien, on montre à la personne, voilà ce qui va t'arriver. Tu vois, tu vas passer par ça. Et la plupart du temps, il n'y a même pas besoin que ces choses-là arrivent. La personne, à partir du moment où elle se fixe sur toutes les choses terribles qui vont lui arriver, elle se brise et elle parle. Parce qu'elle commence à regarder à tout le mal qui va lui tomber dessus. Et elle arrête d'espérer. C'est terrible, ça. Le mensonge. Satan, c'est le père du mensonge. Le péché, l'intimidation, le mensonge. Le mensonge, je voudrais en parler un peu plus, parce qu'il nous concerne également beaucoup. Satan nous ment sur la nature de Dieu. C'est ce qu'il a fait dès le jardin d'Éden. Il a fait, Dieu a vraiment dit que vous pouviez manger aucun des fruits? Non, Dieu il avait pas dit ça. Dieu avait dit, vous pouvez manger tous les fruits. Mais juste, pour l'instant, le fruit de la connaissance, vous n'y touchez pas. Et bien, Satan, quand il dit, Dieu a-t-il vraiment dit ça? Il introduit un doute. Il change, il dit, Dieu a dit, vous n'avez pas le droit de toucher aux fruits. Oh, le vache, il vous met tout ça sous le nez et vous n'avez pas le droit. Tu te rends compte? L'enflure. Et ça marche. Ève, elle commence par rectifier, mais il y a déjà un doute. Elle a commencé à changer de regard sur la nature de Dieu. Et après, dès que Satan s'en rend compte, là, il met un bon gros mensonge et ça passe. Parce que Ève, elle a eu un doute sur la nature de Dieu. La nature de Dieu aussi, c'est l'Écriture qui nous en parle. Et quand vous regardez comment Jésus a été tenté au désert, c'est exactement ce que Satan a fait. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, encore une fois, est-ce que t'es vraiment sûr que t'es le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois vraiment que t'es un Dieu capable de tout? Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi dans le vide, car il est écrit, les anges le porteront, et afin que son pied ne trébuche pas sur les pierres. Il prend un verset, il le sort du contexte, et il tord totalement, parce que Dieu c'est pas le Dieu de X-Factor, c'est pas un Dieu de la télé-réalité, et tiens je vais faire un truc débile et puis il y a Dieu qui va me rattraper. C'est pas ça, c'est un Dieu de relation. On fait les choses parce que Dieu nous veut que nous allions dans cette direction, parce que c'est bon pour nous. C'est pas on fait n'importe quoi et Dieu est là parce qu'il est sympa. C'est un Dieu Père Noël. Satan ment sur la nature de Dieu, il ment aussi sur la difficulté des épreuves ou sur la possibilité de les surmonter. Encore une fois, on revient tout à l'heure, il vous montre quelque chose, il vous dit, regardez là, tu vas jamais y arriver, c'est trop dur. C'est trop dur. Je vais citer Florence, ça doit être au moins la troisième fois depuis ce matin, je crois qu'elle doit en être à 10 € de droits d'auteur. Elle nous avait rappelé cette phrase qui dit, ne dis pas à Dieu combien la montagne est élevée devant toi. Dis à la montagne combien ton Dieu est grand. Ah oui, je voudrais revenir sur le fait de mentir sur la nature de Dieu. En fait, il y a un truc qui est super pervers là-dessus quand même. C'est qu'en fait, quand on nous ment sur la nature de Dieu, même la Bible qui nous parle de Dieu, en fait, on va la comprendre différemment. Alors ça, c'est vraiment tordu. Il y a André qui vous montre souvent un livre de Christian Schwartz. Et dedans, il parle de ça. Il prenait l'exemple de Matthieu 10, 39. Le verset qui dit, où Jésus dit, « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Et ben en fait, en fonction de l'assemblée dans laquelle vous allez être, il y en a qui vont appuyer sur « perdre sa vie ». Vas-y, travaille mon frère. Oui, mais là je suis fatigué. Non, mais c'est bien, tu perds ta vie. Non, mais là il y a ma famille qui est en train de se fissurer parce que je passe tout mon temps à faire des choses pour Dieu, etc. Oui, t'es en train de perdre ta vie, c'est bien. Il y a Jésus qui est en train d'intervenir pour toi. C'est jamais dit comme ça, évidemment. Je vois Hélène qui fronce ses sourcils. J'ose espérer qu'aucun pasteur ne dira ça. Mais concrètement, ça peut aboutir à ça. Quand on insiste sur le fait de perdre sa vie, on peut aller très loin dans le sacrifice. Et il y en a d'autres qui insistent sur le fait qu'on la retrouve. Alors, ils insistent, comme ils insistent pas trop sur le fait qu'on la perd, on est content de, oh, pff, de toute façon, je retrouverai la vie avec Jésus, tout va bien. Et vous avez des ambiances d'église totalement différentes. Parce qu'en fait, en fonction de l'image qu'on a de Dieu, et en fonction des mensonges qu'on croit sur la nature de Dieu, ben on choisit son église, parce qu'on se retrouve avec des gens qui croient les mêmes choses que nous. Et parfois, les mêmes mensonges. Je ne dis pas qu'on ne croit que des mensonges, et que toute l'église croit des mensonges. Mais s'il y a autant d'églises différentes alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu, faut bien se dire à un moment donné qu'on doit se tromper sur quelques détails au moins. Et je voudrais, immense sur Dieu, immense sur la difficulté des épreuves, et immense sur nous. Et c'est ça là-dessus c'est que je voudrais insister aujourd'hui. Parce que les mensonges qu'il arrive à nous faire gober sur nous, ça peut complètement casser cette relation qu'il veut avoir. En première année de droit, je sais qu'il y en a plusieurs qui rentrent en fac ou qui sont depuis pas très longtemps, en première année de droit, j'avais un professeur de droit civil, pas croyant, hein, mais qui nous avait raconté une anecdote intéressante. Il était dans sa voiture un jour, et arrêté à un feu, à une petite montée. Il n'y avait pas de voiture derrière lui, il y avait juste une voiture devant. Et il était là, en train d'attendre au feu. Et d'un seul coup, la conductrice, il y avait une charmante jeune femme, toute seule dans sa voiture devant, elle se retourne et elle fait... Non. Et elle recommence, elle se retourne à nouveau, elle fait... Et là, il fait, bon, je suis avocat, j'ai un beau costume, j'ai une belle voiture, donc, elle est folle de moi. Et le feu passe au vert, il redémarre, et ils arrivent au feu suivant, et elle se dit, ouais, ce coup-ci, si elle recommence, je vais la voir, je lui file mon numéro de téléphone, c'est sûr. Sauf que le feu suivant, en fait, c'était plus une montée, là, c'était un peu en descente. Effectivement, il revoit la conductrice de devant qui se retourne une fois arrêtée au feu et qui fait au bébé qui était sur le siège arrière. En fonction de la perspective qu'on a, on peut totalement mal interpréter les choses qui arrivent. Mais lui, le message qu'il a compris, c'est « Je suis séduisant ». Et il commençait à agir en fonction de ça. Et de la même manière, les messages que vous croyez, les mensonges que vous allez croire sur vous, ils vont conditionner la manière dont vous allez agir après. Beaucoup moins drôle, il y a Dan Snead, qui est un des pasteurs Foursquare, qui a raconté une anecdote. Quand il était en école biblique, il avait beaucoup de mal à avoir des relations avec les autres, parce qu'il s'aimait pas. Il pensait qu'il méritait pas, il était pas digne d'intérêt. Et malgré tout, Dieu a commencé à travailler en lui, et un jour il s'est dit, bon, je vais prendre sur moi, je vais aller voir mes camarades de classe et je vais essayer d'entamer une discussion avec, je vais essayer de devenir leur ami. Et il y avait un groupe qui était à côté de l'ascenseur. Et il prend son courage à deux mains, il va pour aller leur parler, et à ce moment-là, il se sépare, il part dans toutes les directions. Et lui aussitôt, il s'est dit, oh non, ils veulent tellement pas de moi, ils préfèrent se barrer quand j'arrive. Et en fait, après, il a réfléchi, il a fait, mais attends, ils étaient en train de parler entre eux, il y en a même pas un qui m'a regardé. Ça se trouve, ils sont pas rendus compte. En plus, il y avait une sonnerie, ça se trouve, ils allaient en cours, peut-être qu'ils avaient fini de se parler, etc. Il a été obligé de reprendre tous les éléments concrètement pour essayer de briser ce mensonge qui lui disait que personne ne l'aimait, que personne n'était capable de l'aimer et qu'on préférait l'éviter. Ça, c'est beaucoup moins drôle que l'anecdote de mon prof de droit. Mais par contre, ça vous montre bien les dangers qu'il y a à croire l'ennemi. Et c'est même plus que ça, parce que non seulement on peut se faire du mal à soi-même, on peut rester malheureux en croyant des mensonges, mais en plus, ça énerve Dieu. Parce que cette relation qu'on a, la manière dont Dieu nous a créés, c'est quelque chose qu'il a tellement à cœur, que quand on se trompe sur nous-mêmes, c'est quelque chose qui irrite Dieu. Allez, on va prendre quelqu'un qui avait que des problèmes de relation avec Dieu. Moïse. Non. Moïse, Dieu lui parlait face à face. C'était un homme humble, comme il n'y en a pas eu deux. Et pourtant, si vous prenez votre Bible à Exode, au chapitre 4, verset 10, Moïse dit à l'Éternel, alors en fait Dieu est en train de l'appeler à devenir Dieu est en train de l'appeler à devenir le leader de son peuple. Et alors en fait il lui dit tu vas aller voir le pharaon, bon d'accord, tu vas faire des miracles devant lui, c'est un peu chaud mais bon d'accord. Je vous rappelle, Moïse il était recherché pour meurtre, hein. Il avait été élevé à la cour, il avait tué un Égyptien, il s'était exilé pendant 40 ans. Donc il était connu de la cour et il était recherché pour meurtre, il pouvait être mis à mort. Mais il y va, c'est pas un lâche. Tu vas faire des miracles. Dieu lui montre même ce qu'il va lui faire faire. Bon d'accord, ok, t'es capable de le faire Seigneur, il n'y a pas de problème. Et tu vas parler devant Pharaon. Ah non, je suis pas capable de parler en public, ça c'est pas possible. Dieu lui demande des trucs 100 fois plus durs juste avant, et Moïse accepte. Mais quand il s'agit de changer d'idée sur lui-même, Moïse est persuadé qu'il ne peut pas parler en public, et il est persuadé que ça ne peut pas changer. Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et c'est pas d'hier, ni même d'avant-hier. Ni même depuis que tu parles à ton serviteur. En gros, c'est pas une excuse, j'ai toujours été comme ça. C'est pas parce que tu me demandes quelque chose maintenant. J'ai toujours été comme ça. Et entre parenthèses, je serai toujours comme ça. Elle est en train d'affirmer quelque chose à Dieu. J'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme ? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? Est-ce que ce n'est pas moi l'Éternel ? Va, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Ça, c'est des sacrées promesses quand même. Mais Moïse dit, « Oh Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Non, pas moi. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit... Là, il pète un câble. Il lui dit, « Je suis Dieu, je vais te donner les moyens, mais Moïse est incapable de changer d'image sur lui-même. » Il a cru ce mensonge qu'il n'était pas capable de parler, et il croit Dieu sur tout le reste, mais quand Dieu lui dit, « Je peux donner la capacité de le faire », il ne le croit pas. Et là, Dieu s'énerve. Mais il ne le punit pas, et il lui donne un moyen, et lui dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ? Je sais qu'il parlera facilement. » Mais Moïse est passé à côté d'une bénédiction. Dieu était sur le point de changer ça dans sa vie. Il y a quelque chose qui lui a toujours pourri la vie, manifestement, il bloque là-dessus, Dieu était sur le point de le guérir de ça. Il passe à côté d'une bénédiction, et il a irrité Dieu. C'est une des deux fois dans sa vie où il a irrité Dieu. Et de la même manière, dans Nombre 13:30, vous vous rappelez quand les Hébreux envoient les espions en terre promise, il y en a 8 qui reviennent en disant « c'est catastrophique, ils sont trop forts, on va se faire dépouiller ». Et il y a 2 espions qui disent « non mais ce pays c'est exactement ce que Dieu nous a promis, le pays où coule le lait et le miel, c'est génial, c'est la promesse de Dieu qui est en train de se réaliser ». Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse, et il dit « montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs ». Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « non, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, il est plus fort que nous ». Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et ils dirent « le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants ». Vous vous rappelez ? Le mensonge sur les difficultés qui sont trop grandes. Là, on est là-dedans. Mais tout de suite après, « tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu des géants, de la race des géants. Et nous étions à nos yeux, le mensonge sur eux-mêmes, nous étions à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. » Alors, aux leurs, je sais pas comment ils peuvent le dire, parce qu'ils étaient des espions, a priori ils n'ont pas parlé avec les autres, donc là ils sont en train d'inventer. Mais ils disent, à nos yeux, on était comme des sauterelles à côté d'eux. Et là c'est le mensonge sur eux-mêmes. Ils croient qu'ils sont des esclaves, ils croient qu'ils sont insignifiants, alors qu'ils sont le peuple de Dieu, et qu'il n'y a pas eu un jour dans le désert où il n'y a pas eu des miracles, où il n'y a pas eu la colonne de feu ou la colonne de fumée qui les guidait. Mais ils croient un mensonge sur eux-mêmes. Je le lis en Nombre 14:10. La gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?» Ouf ! Là, il est vraiment en colère. Tous ceux qui ont vu ma gloire, et tous les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Quand on croit un mensonge sur nous, Dieu nous dit qu'on le méprise. Parce qu'on donne plus d'importance à quelque chose auquel on croit, ou quelque chose qu'on nous a dit, qu'à ce qui est marqué dans sa parole. Et justement, comment est-ce qu'on fait pour arrêter de croire à ces mensonges? Parce que c'est dur. C'est tellement imprégné en nous que ça passe même plus par le filtre de notre intelligence. On le gobe directement. Alors, justement, en lisant ce que sa parole dit de nous, en nous l'appropriant, en le gardant et en l'apprenant. Ça, c'est la première chose. Ceux qui étaient déjà là à l'époque où on avait travaillé sur la nouvelle identité en Christ, je vous redonne quelques versets. Charles, tu es le sel de la terre, d'après Matthieu 5, 13. Yves, tu es la lumière du monde, Matthieu 5, 14. René, tu es un enfant de Dieu. Hélène, tu es l'amie de Christ. Elsa, tu es l'esclave de la justice, Romains 6, 18. Tom, tu es un temple, une habitation pour Dieu. Son esprit et sa vie habitent en toi. 1 Corinthiens 3, 16 et 1 Corinthiens 6, 19. Jean-Gilles, tu es réconcilié avec Dieu et tu as un ministère de réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18 et verset 19 aussi. Josué, tu es un saint. Si, c'est marqué en Éphésiens 1, 1, 1 Corinthiens 1, 2, en Philippiens 1, 1, en Colossiens 1, 2. Si tu crois pas autant de références, c'est ce que Dieu dit de toi. Sylviane, tu es cachée avec Christ en Dieu. Yunok, tu es libre de la condamnation. Romains 8, verset 1. Fleur, tu as été crucifiée avec Christ. Et ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Et la vie que tu vis maintenant, c'est la vie de Christ. Galates 2, 20. Xavier, tu as un accès direct auprès de Dieu par le Saint-Esprit. Éphésiens 2, 18. S'il y en a que ça intéresse d'avoir ces listes de versets sur ce que Dieu dit de nous, elles sont là, vous pouvez les photocopier à la fin du culte ou à n'importe quel autre moment. Je me ferai un plaisir de les retrouver pour vous. Parce que c'est ça ce que Dieu dit de vous. Ça, c'est la vérité. Pas ce que disent vos collègues, même pas ce que disent vos parents. Ah, qu'est-ce que t'es sale ! Non, ça c'est marqué nulle part dans la Bible. Vous avez peut-être fait des choses sales, mais c'est pas ce que vous êtes. Tu n'obéis jamais ! Non, vous êtes des saints. Vous êtes co-héritiers avec Christ. Donc, ces mensonges, vous pouvez les combattre en retrouvant ce que la parole dit de vous. Mais il y a aussi quelque chose, ça c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est en prenant en compte les attentions que Dieu marque à votre égard. Je vous l'ai déjà raconté, quand j'étais gardien de la paix, à un moment donné, j'ai passé le concours d'officier, sans y croire. C'était plus pour m'occuper. Et puis, j'ai eu les écrits. Déjà, c'était un peu miraculeux. Et puis, j'ai travaillé, j'ai donné tout ce que j'avais. J'ai travaillé toutes les heures où j'étais capable de mettre à mon travail pour essayer d'avoir les oraux de ce concours. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'arrivais plus. Je pouvais lire 15 fois quelque chose, j'arrivais plus à apprendre. Parce que j'avais peur, parce que j'étais crevé, parce que j'en avais marre. Et là, alors que j'étais pas encore converti, je me suis mis à genoux et j'ai dit à Dieu, bon, écoute, t'es pas super respectueux à l'époque. Je fais, bon, si je te sers à quelque chose en étant lieutenant, aide-moi parce que moi, là, je peux plus. C'est comme ça que je priais. Mais en fait, c'était super efficace comme prière. Parce que j'ai arrêté net d'avoir peur, j'ai su que j'allais avoir le concours. J'ai pas réussi à apprendre une ligne de plus, mais Dieu est intervenu. Alors, ça, c'est toujours sympa d'avoir une réponse à une prière. C'est toujours un sujet de se réjouir et de remercier Dieu et de le glorifier. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, tout le temps que j'étais adolescent, je m'aimais pas. Je m'aimais pas. Je me détestais même, en fait. Et ça a changé quand je suis devenu un homme. Et je savais pas pourquoi. Et en fait, c'est des années après, en regardant l'enseignement de Dan Snead, je me suis aperçu qu'il y avait des choses, je croyais que j'avais encore besoin d'en être guéri, et je me suis dit, non, en fait, maintenant que j'y réfléchis, ça fait quelques années que j'ai plus ce problème-là. Et j'ai cherché à quel moment ça avait changé dans ma vie. Parce que là, c'était pas des versets qui avaient inversé les mensonges du diable, c'était pas... Je m'étais rendu compte de rien, mais j'avais été guéri. Et en fait, à force de rechercher, je me suis aperçu que c'est à ce moment-là. Dire, waouh, je suis tellement important pour Dieu, pour qu'il fasse quelque chose comme ça. Si je suis, si Dieu m'aime à ce point-là, s'il m'accorde autant d'attention, je suis quand même pas si naze. Je peux pas me détester totalement si Dieu m'aime à ce point-là quand même. Et ça, ça a tout changé. Et c'est quelque chose auquel je pensais très fort. Ça a peut-être rien à voir, mais quand j'ai vu tout ce que David a souffert cet été, à quel point il a dû attendre jusqu'au dernier moment. Peut-être que c'était ça derrière le message. Peut-être qu'en fait, parce que s'il l'avait eu avant l'été, finalement, bon, ok, merci Seigneur, mais c'est vite passé. Mais quand on a vraiment souffert, et quand on sait que c'est absolument plus dans nos mains, et qu'on voit que Dieu intervient pour nous, là, ça fait un waouh. Comme un bébé quand il pleure, qui sait qu'il peut pas faire quelque chose, qu'il peut pas obtenir quelque chose, et là, son papa il vient et il rend ça possible d'un seul coup. Là, il sait que son papa il l'aime et qu'il veille sur lui. Et là, ça a tout changé. Et là, ça a changé le regard que je portais sur moi-même. Ce qui fait qu'après, quand j'ai commencé à lire ces enseignements de Dan Snead, j'y ai cru. J'y ai cru parce qu'en fait, Dieu avait déjà fait le travail en moi. Attention, hein. Le but, c'est pas de se glorifier en disant « Ah, je suis tellement important pour Dieu, j'ai juste à prier et il m'obéit. » Oh là, surtout pas. Surtout pas. La Bible nous dit que Dieu prête même attention aux lys dans les champs et aux oiseaux. Il prête attention à tout. Mais il nous aime et il prête suffisamment attention à nous pour faire ces choses-là dans nos vies. Paul nous dit « Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Ça, je trouve ça curieux. Je trouve que c'est un paradoxe, cette phrase. « Je cours pour tâcher de le saisir. » Donc en fait, Paul essaye d'attraper Jésus-Christ et finalement il nous dit « Jésus-Christ m'a déjà saisi. » Et pourquoi tu cours alors? Il t'a déjà attrapé, t'essayes d'attraper ta queue là comme un chat? Ça paraît paradoxal. En réalité, je crois que ce que Paul essaie de nous dire, c'est que nous, on peut faire le choix de la solution, mais que la solution, on l'a pas en nous-mêmes. Il court, il fait des efforts, il va au plus vite pour se rapprocher de Jésus, mais en définitive, c'est Jésus qui a résolu le problème de la relation. Et en fait, comme je suis en train de repasser des concours administratifs en ce moment, je trouvais qu'il y avait un parallèle, on nous parle beaucoup de la liberté. On nous demande de réfléchir énormément autour de la liberté. Et on joue souvent sur ce paradoxe. La liberté, c'est un droit, c'est même un droit universel. Alors nous, en France, on a la Déclaration des droits de l'homme, mais la Déclaration universelle des droits de l'homme, premier article, tout homme naît libre et égal. Bon, hop, premier droit qu'on a, on est libre. Et pourtant, faut se battre pour la liberté. Mais si c'est mon droit, pourquoi je dois me battre? Je l'ai, on me l'a donné. Bah, le seul problème, c'est que la liberté, si on l'utilise pas, on la perd. Hein, l'exemple classique utilise les profs au lycée. Vous avez la liberté de choisir votre gouvernement à travers le droit de vote. Si vous n'allez pas voter, bah, y a peut-être un parti non démocratique qui va prendre le pouvoir. Et une fois qu'il est élu démocratiquement, il a le droit de supprimer le droit de vote. Puisque les gens ont voté pour ce parti qui, de toute façon, va vers ça. Et bah, de la même manière, notre liberté, c'est Christ. Et lui, il a déjà fait son sacrifice pour nous sauver. On l'a de naissance, on a cette liberté en Christ. Mais pour autant, si on veut rétablir la relation originelle, la relation que Dieu veut avoir avec nous, ce face à face, qu'il a voulu de tout temps, eh ben, il faut se battre. Il faut essayer de la préserver. Il faut courir. Il faut pas la laisser s'enfuir. Dieu nous dit qu'il ne faut pas mépriser ce qu'il a fait pour nous, notamment à travers le sacrifice de Jésus-Christ, mais également tous les efforts qu'il fait au quotidien pour avoir cette relation avec nous. Et il ne faut pas nous la laisser voler par l'ennemi. Il faut bien fermer toutes les portes. Alors l'encouragement que je me lance à moi-même, parce que quand on prépare quelque chose, souvent on en apprend autant que ceux qui l'écoutent, peut-être plus même, parce que je m'écoute parler beaucoup. Ne disons pas « je n'entends pas Dieu, je sais pas ce qu'il veut pour ma vie, je comprends rien à ce qu'il me dit ». Non, on affirme « je sais que Dieu a des projets pour moi, et je vais préparer ma vie à les accueillir ». Et à un moment donné, je sais qu'il me parlera, et je sais que les choses vont se mettre en place. Parce que c'est son plan, il veut cette relation avec moi. Ne méprisons pas Dieu, et ne perdons pas ce qu'il a fait pour nous. Que le Seigneur vous bénisse.